Merci Jean-Pierre et bonjour à vous tous, à vous qui nous visitez ce matin. Et je vous invite à admirer ce magnifique bouquet de fleurs qui est là le temps de notre culte. Merci à la personne qui la porte et qui s'en occupe régulièrement. Alors je ne sais pas si ce sont des lys, j'ai envie de dire oui, ce sont des lys. Et je ne sais pas si c'est en fonction de la prédication de dimanche dernier qu'il y a un bouquet de lys sur cette table. J'avais parlé dimanche dernier de Salomon, de sa richesse, de son immense richesse, et le texte du livre des rois, et même aussi des chroniques, premier livre des rois, chapitre 10, deuxième livre des chroniques, chapitre 9, insiste sur l'immense richesse du roi Salomon, aussi de sa sagesse. Mais en ce qui concerne sa richesse, le texte dit qu'elle était immense. Et le commentaire de Jésus, toujours intéressant d'avoir le commentaire de Jésus sur des textes ou des personnages de l'Ancien Testament, dit que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas comparable à la beauté d'un lys des champs. Que Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Pourtant, ces lys des champs sont très éphémères, très passagers. Mais Salomon aussi était passager au regard de l'histoire de l'humanité et surtout de l'éternité. Mais le commentaire de Jésus sur la richesse de Salomon, c'est qu'il n'était pas vêtu comme ces lys des champs qui pourtant, dit Jésus, disparaissent rapidement. Et puis le deuxième commentaire de Jésus sur la sagesse de Salomon, c'est en relation directe aussi avec la rencontre de la reine de Saba. Donc ça c'est 1 roi chapitre 10 et 2 chroniques chapitre 9, où elle loue Dieu, cette païenne, la reine de Saba, et le royaume de Saba était particulièrement connu pour ses mines d'or, ses mines de pierres précieuses, ses aromates. Hein. Et le commentaire de Jésus, c'est que la reine de Saba a fait l'effort de se déplacer pour aller voir, pour se rendre compte par elle-même de la sagesse du roi Salomon, alors que la génération de Jésus ne se soucie pas de Jésus qui, lui, est la sagesse de Dieu. Il dit, en parlant de la reine de Saba, il y a ici, en parlant de lui, plus que Salomon. Autrement dit, pour Jésus, avec ces deux seuls textes qui parlent, dont parle Jésus de Salomon, pour Jésus, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas sa richesse qui compte, c'est Dieu. Dieu qui donne des beautés extraordinaires dans la nature, bien plus grandes que celles des riches de notre monde. Et pour Jésus aussi, la véritable sagesse, plus grande encore que celle de Salomon, c'est lui, Jésus. Et cela vaut la peine, non seulement de prêter attention à ce qu'il dit, mais de se nourrir de sa sagesse. Alors j'aimerais ce matin poursuivre un peu cette méditation, et je vous disais, je crois dimanche dernier, qu'il y a parfois des textes qui me troublent, qui me posent des problèmes, et plus j'avance en âge, et ça passe très vite, plus j'ai certains problèmes comme ça avec des textes bibliques où la réponse n'est pas toujours aux questions qu'on se pose, n'est pas toujours évidente et n'est pas toujours simple. Et j'aimerais ce matin, non pas répondre parce que je ne sais pas si j'ai vraiment la réponse, mais quand même donner des éléments de réponse à un problème que m'oppose la vie de Salomon. Alors j'aimerais lire avec vous dans 1 roi, juste quelques versets, 1 roi chapitre 8, d'abord verset 60. C'est la fin de la prière de dédicace du temple de Jérusalem que Salomon a donc construit ou fait construire, hein, temple que David a élaboré, et c'est Salomon qui l'a construit. Et à la fin de cette prière, il dit « Ainsi tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y en a point d'autre. Que votre cœur, dit Salomon, soit tout entier à l'Éternel notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour marcher selon ses prescriptions et pour observer ses commandements. » Magnifique texte qui montre que le rayonnement d'Israël avec ce temple et aussi avec la sagesse et la richesse du roi Salomon devait glorifier Dieu à travers le monde. Et la visite de la reine de Saba va dans ce sens. Et puis chapitre 9, verset 2 d'abord, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il était apparu à Gabaon. Donc Dieu est apparu à Salomon au début de son règne et lui dit « Mais que veux-tu que je te donne ?» Et Salomon répond « La sagesse pour gouverner ce peuple parce que bon, ben, c'est une lourde charge. » Et puis ici, après la construction, la dédicace du peuple, du temple, pardon, l'Éternel apparaît une seconde fois à l'Éternel et il le met en garde. Il lui dit « Si tu marches droit, si tu obéis à mes prescriptions, alors tu auras toujours quelqu'un sur ton trône. Sinon, ton trône sera enlevé à ta descendance. » Verset 4 et verset 7, c'est ce que je viens de vous dire. « Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché ton père David, avec intégrité de cœur et avec droiture pour agir d'après tout ce que je t'ai ordonné, si tu observes mes prescriptions, mes ordonnances, j'établirai pour toujours ton trône royal en Israël. » Verset 6, « Mais si vous vous détournez délibérément de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes prescriptions que j'ai placées devant vous, et si vous allez rendre un culte à d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je retrancherai Israël de l'étendue du territoire que je lui ai donné. Je regretterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, etc. » Et puis encore un dernier texte, chapitre 11, 1 Roi 11, versets 9 et 10. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu deux fois. Il lui avait donné des ordres sur ce point précis, qu'il n'aille pas se rallier à d'autres dieux. Mais Salomon n'observa pas les ordres de l'Éternel. Incroyable. Je ne comprends pas. Un homme qui avait reçu la sagesse de Dieu de façon si extraordinaire que le monde entier, en tout cas ceux qui en ont eu connaissance autour de ce petit royaume d'Israël, même assez loin comme la reine de Saba, reconnaissait sa sagesse, la sagesse qui venait de Dieu, louait Dieu pour cela. Et voilà qu'à la fin de sa vie, dans sa vieillesse, chapitre 11, verset 4, « À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut pas tout entier à l'Éternel, son Dieu. » Qu'est-ce qui a fait que Salomon n'a pas su rester fidèle au Seigneur à la fin de sa vie, alors qu'il a été si béni, si rempli de la sagesse d'en haut par le Seigneur lui-même au cours de son règne. Question difficile. Je vais essayer d'y répondre et d'en tirer aussi quelques enseignements pour nous ce matin. À sa naissance, le roi Salomon, enfin le roi Salomon n'était pas roi encore, à sa naissance, fils de David, mais il n'était pas le seul fils de David, du roi David, il est pris en charge par le prophète Nathan. Un peu comme Samuel avant le roi Saül, dès sa naissance, c'est le prophète Nathan qui le prend à son école, qui le prend en charge. De Samuel, chapitre 12, verset 25. Et d'ailleurs, il lui donne un autre nom. Il a un autre nom, Salomon. Le mot Salomon, on veut dire un peu, il y a la racine du mot paix, shalom. Hein. Et il a un autre nom, c'est Yedidia, qui veut dire aimé de l'Éternel, chéri de l'Éternel. C'est déjà... Il part avec un assez grand capital, hein, mis à part, peut-être mis à part par l'Éternel, et quelqu'un qui va grandir dans la présence du prophète fidèle, Nathan. Et il reçoit, au moment où il monte sur le trône, une immense sagesse. Et dans la récapitulation de sa vie, il est dit dans 1 Roi chapitre 10, verset 23, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tout le monde cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. » Puis encore 1 Roi chapitre 12, verset 41, « Le reste des actes de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, tout cela est écrit dans les livres un tel et un tel. » Or, il a lamentablement fini sa vie, comme l'atteste 1 Roi 11, 9 que nous avons lu. Dans sa vieillesse, il s'est laissé entraîner dans l'idolâtrie et le rejet de Dieu. Et pourtant, ce ne sont pas les avertissements de Dieu qui ont manqué. Dieu l'a averti, Dieu l'a repris. Si tu marches en ma présence, si tu observes mes prescriptions, que s'est-il passé? Je crois que Salomon n'a plus su écouter la voix de la sagesse. Il a su résoudre les énigmes, les problèmes des autres, mais pas les siens. Et j'aimerais dire que aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. C'est un don de Dieu qui est accordé à tous ceux qui le demandent à Dieu. C'est ce que dit Jésus. Et il y a aussi des personnes qui ont marché avec le Seigneur, qui ont été utilisées par le Seigneur et qui ont... peut-être à la fin de leur vie ou à la fin de leur ministère, lourdement péché, accompli des actes incroyables, en tout cas de la part de personnes qui ont si fidèlement marché avec Dieu. Et dans le livre des Proverbes, et les Proverbes ont été écrits par Salomon, c'est ce que nous dit le premier verset, Salomon insiste sur la crainte de Dieu. Je crois que peut-être que la clé est là, la crainte de Dieu. Avoir en permanence la crainte de Dieu. Je vais expliquer dans un instant ce que veut dire cette crainte de Dieu. Mais lorsque cette crainte de Dieu est abandonnée, alors, on ne fait plus ce qui plaît au Seigneur. Proverbes chapitre 1, verset 7, dès le début de ce livre des Proverbes, Salomon dit ou écrit, « La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. » Et c'est traduit un peu d'une autre façon dans deux autres traductions. La Bible du Semeur dit, « La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. » Donc déjà, craindre Dieu est traduit dans la Bible du Semeur par révérer Dieu ou révérer l'Éternel. Et puis la Bible en français courant traduit reconnaître l'autorité du Seigneur, c'est l'ABC de la sagesse. Autrement dit, pour les traducteurs de la Bible en français courant, craindre le Seigneur, c'est reconnaître l'autorité, c'est se mettre sous l'autorité du Seigneur. Alors voilà la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est révérer Dieu et c'est aussi reconnaître son autorité sur nous dans tous les comportements de notre existence quotidienne. Pour résoudre les multiples problèmes de notre vie quotidienne. Est-ce que nous avons un peu ce réflexe dans telle décision que je dois prendre? Qu'en pense le Seigneur? Comment est-ce que je peux plaire au Seigneur? Est-ce que ce que je fais, je plais au Seigneur ou pas? David Dixon, dans notre week-end à Jude, dans son message sur, je ne sais plus si c'était le premier ou le deuxième, disait qu'il avait toujours un problème lorsqu'il avait l'intention d'aller au cinéma. Hein, parce qu'il se disait, mais est-ce que ce film que je vais voir va me faire du bien, va pas me faire du bien? Est-ce que Dieu est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? Voilà, hein. Donc je pense que c'est une attitude spirituelle de se mettre toujours devant Dieu pour dire, est-ce que le Seigneur est honoré, pas seulement au culte le dimanche matin dans nos prières, mais dans les petites décisions quotidiennes de notre vie quotidienne. Proverbe chapitre 1, verset 5, je lis, « Que le sage écoute et il augmentera son savoir. » Celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Voilà, l'art de se conduire. Voilà aussi la sagesse. Et le terme employé ici, par conduire, s'applique, en hébreu, au pilotage d'un bateau, à l'art de gouverner. D'ailleurs, gouverner un bateau, c'est diriger avec un gouvernail. Et on gouverne aussi sa vie, on la dirige, hein, un peu aussi sur une mer, un peu parfois calme, mais parfois aussi déchaînée. La vie est une navigation au milieu de récifs, avec des tempêtes, du calme, des rochers, des bancs de sable qu'il faut éviter. Et celui qui est sage sait manœuvrer, diriger avec habileté. Ainsi, la sagesse que Dieu veut nous donner concerne la direction que nous donnons à notre vie. Mais la sagesse de Dieu, la sagesse de l'Écriture, c'est essentiellement, et le Nouveau Testament le dira avec force, ce qui nous amène à la vie éternelle, ce qui nous amène au salut. Et l'apôtre Paul écrit dans la première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23, « Nous nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » La véritable sagesse pour l'apôtre Paul, c'est celle qui mène à salut. Elle se trouve en Jésus-Christ, c'est lui notre sauveur, c'est lui qu'il nous faut suivre. Et peut-être que le parallèle entre craindre Dieu, qui est une expression de l'Ancien Testament, se trouve dans cette expression suivre le Seigneur dans le Nouveau Testament. Proverbe chapitre 8, 35 dit « Celui qui me trouve la sagesse » à trouver la vie. La vie dans la Bible, c'est aussi et surtout la vie avec Dieu, la vie éternelle. Et obtient la faveur de l'Éternel. Et puis, chapitre 9, verset 1, la sagesse a bâti sa maison, une maison solide, avec des colonnes. Et Jésus reprend cette formulation avec la fin du serment sur la montagne. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, hein, dit-il, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent, sensé, sage, qui a bâti sa maison sur le roc. Donc être sage, c'est être sage bien sûr en suivant le Seigneur, en mettant sa confiance en lui pour la vie éternelle, mais c'est bâtir aussi sa vie sur le roc qu'est le Seigneur lui-même. Proverbe chapitre 9, verset 10, le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la crainte du Seigneur, le mot crainte a comme synonyme le mot peur, je crois qu'il doit y avoir un peu de peur quand même du Seigneur, même si Dieu est notre Père, hein, et donc quelqu'un avec qui nous avons une relation libre. Mais la crainte du Seigneur, c'est le comportement de celui qui a une conduite conforme à la volonté du Seigneur. La crainte de Dieu, c'est la peur de désobéir au Seigneur et de lui déplaire. Proverbes chapitre 8, verset 13 nous dit « La crainte de Dieu est la haine du mal. » Là, je cite « La haine du mal. » Chapitre 10, verset 27, « Elle prolonge la vie. » 14, 27, « Elle est source de vie. » 15, 16, « Elle a plus de valeur qu'un grand trésor. » La crainte de Dieu, hein, je cite. 16, verset 6, « Elle détourne du mal. » Et 22, verset 4, « Et les richesses, gloire et vie. » La crainte du Seigneur, dit Salomon, c'est le point de départ, le début du chemin. Mais on peut dire aussi que cette crainte doit accompagner tout au long de la vie. Et Proverbes chapitre 15, verset 33 dit « La crainte de l'Éternel est l'enseignement de la sagesse. » C'est un enseignement qui est fait aussi par d'autres, par les parents, par des enseignants, par des sages, et bien entendu, dans notre communauté d'enfants de Dieu, il est important aussi de s'enseigner les uns les autres, ou d'écouter, de recevoir les conseils de sagesse des uns et des autres. Alors cette crainte de l'Éternel, dans le livre des Proverbes, ne se trouve pas seulement au début, mais accompagne tout au long du chemin de la vie. Et puis, le livre de Job, chapitre 28, verset 28, c'est facile à retenir, 28-28, dit carrément, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Voilà, c'est le résumé. Hein? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au début, ce n'est pas au milieu, ce n'est pas à la fin. La crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Si donc la crainte de Dieu s'exprime par l'obéissance à la volonté de Dieu, combien cette obéissance doit nous accompagner tout au long de notre vie. Alors, il est étonnant qu'un homme si sage que Salomon, qui a écrit des paroles si sages dans le livre des Proverbes, qui ont été retenues dans l'Ancien Testament comme paroles inspirées de Dieu, s'est laissé aller et à quitter cette sagesse de Dieu, peut-être pour s'enfermer dans ses propres raisonnements, ou peut-être même dans sa propre sagesse. Isaïe, chapitre 5, verset 21, nous dit « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se considèrent intelligents. » Salomon a quitté le chemin de l'obéissance et de la droiture. Il s'est laissé dévoyer. Et les tentations était grande, bien sûr. Il voulait sans doute faire plaisir à tous ces rois étrangers qui lui ont fourni du bois, des matières précieuses, avec qui il était allié par mariage. C'était aussi pour lui sans doute l'occasion d'avoir la paix, une paix politique. Mais il a quitté le chemin de l'obéissance et de la droiture, parce qu'il s'est laissé entraîner par ce que la Bible appelle par ailleurs le monde, l'esprit du monde. Ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne suivit pas pleinement la voie de l'Éternel. Alors Dieu intervient par des jugements. Et il y en a deux qui sont exprimés au chapitre 11 du premier livre des Rois. C'est deux personnes, des adversaires, voilà, au verset 23, Dieu suscita, verset 14 et 23, un adversaire à Salomon, et au verset 23, suscita un autre adversaire à Salomon. Sans doute, dans un premier temps, pour qu'il prenne conscience que ça ne va pas toujours comme il veut, parce que il s'est éloigné de Dieu, et parce qu'il a besoin de Dieu. Alors, j'essaie d'appliquer cela à notre propre vie. Premièrement, l'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 13, que celui qui pense être debout, et j'aime bien sa retenue là, hein, qui pense être debout, pas celui qui est debout, mais celui qui pense être debout, prenne garde de tomber. Cela s'adresse à chacun d'entre nous. Nous sommes tous pécheurs, fragiles, même si nous avons tous le Saint-Esprit, si nous avons une grande expérience chrétienne derrière nous, ou si nous sommes jeunes dans la foi, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Soyons vigilants. Même le plus grand des sages, c'est peut-être là une des leçons de ce roi Salomon, le plus grand des sages est vulnérable. Il est tombé parce qu'il n'a pas su craindre le Seigneur à la fin de sa vie comme il l'a fait sans doute au début. Tous les hommes au sens générique, hein, même les plus sages, ont besoin de la grâce de Dieu. Car personne n'est parfait. Même les plus purs d'entre nous ont besoin de la grâce de Dieu. Et je crois que plus on s'approche de Dieu, plus on est conscient que nous sommes pécheurs de toute façon. Personne n'est parfait. Nous avons besoin de vivre de la grâce de Dieu. Et puis, troisièmement, une question qu'on se pose peut-être jamais, peut-être ne faut-il pas se la poser, comment finira-t-on notre vie, sa vie, hein? Comment est-ce que nous allons finir notre vie? Et là, je vous lis une petite histoire que Martin Luther King raconte dans son livre « La force d'aimer ». Je lis. Un vieux et sage prédicateur se rendit dans un collège pour y prêcher aux bacheliers. Après un sermon, il n'y a qu'en Amérique qu'on fait des sermons aux bacheliers dans les lycées, hein. Enfin, ça peut arriver aussi chez nous. Après un sermon, il s'attacha à bavarder avec les élèves de la classe de terminale. Il s'entretint avec un élève jeune et brillant, appelé Robert. Sa première question à Robert fut « Quels sont vos projets d'avenir ?»« Je compte aller immédiatement en fac de droit, » répondit Robert. Et ensuite, s'informa le prédicateur, « Eh bien, je pense à me marier, fonder une famille, m'établir solidement dans la pratique du droit. » Et ensuite, Robert, poursuivit le prédicateur, Robert répliqua, « Je compte retirer pas mal d'argent de l'exercice de ma profession, prendre ma retraite assez tôt, et parcourir le monde. » Et ensuite, Robert, ajouta le prédicateur avec une insistance presque ennuyeuse. « Je n'ai pas d'autre projet, » dit Robert. Alors, le regardant dans une attitude qui exprimait un intérêt paternel, le prédicateur lui dit, « Jeune homme, vos projets sont trop courts. Ils ne couvrent que 75 ans, 100 au maximum. Vous devez faire vos projets assez grands pour y inclure Dieu et assez vaste pour y embrasser l'éternité. » C'est vrai. Quels sont nos projets? Comment est-ce que nous gouvernons notre vie dans toutes les décisions que nous avons à prendre? Est-ce que c'est seulement pour 75 ans ou est-ce que c'est pour l'éternité? C'est maintenant. C'est chaque jour qu'il nous faut obéir à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu se nourrit de la parole de Dieu, d'un contact régulier, permanent avec Dieu. Et la lecture ou la méditation de l'Écriture est importante pour cela, la prière aussi, cette communion que nous devons avoir à chaque instant, un peu presque comme une respiration avec Dieu. Un jour, ce sera fini, ce sera trop tard, et ce sera l'éternité. Et comme Jean-Pierre a dit tout à l'heure, nous sommes tous vulnérables, les maladies sont là pour nous le rappeler, mais l'important, c'est où passerons-nous l'éternité. C'est tous les jours qu'il nous faut craindre l'Éternel. Et c'est aujourd'hui qu'il nous faut demander pardon à Dieu pour souvent notre obstination, à vouloir diriger notre vie par nous-mêmes, selon notre propre volonté, sans tenir compte de la volonté de Dieu. Pourquoi attendre que ce soit trop tard? Alors Dieu serait-il irrité contre nous, comme il l'a été contre le roi Salomon? Eh bien, à chacun de nous, dans notre fort intérieur, de poser la question à Dieu. Qu'est-ce qui t'irrite dans ma vie? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Qu'est-ce qui n'est pas conforme à ta volonté? Si nous nous approchons de Dieu, dans la prière, sa volonté apparaîtra, je crois, clairement à notre esprit. Et par son esprit, je crois que nous savons au fond de nous-mêmes ce que nous devons faire, ce qu'il convient de faire, mais le problème c'est que nous ne le voulons pas, ou parfois nous ne nous en donnons pas la force. Et remettre à plus tard, c'est refuser de marcher avec Dieu, c'est refuser de lui donner toute la place, et qu'on le veuille ou non, c'est laisser la porte ouverte aux idoles qui prennent alors la place de Dieu dans notre vie. Et ça pour Dieu, c'est l'horreur, c'est le pire de tout, parce que Dieu veut être notre Dieu et il ne partage pas cette présence, cette gloire avec d'autres dieux. Eh bien, que Dieu parle à nos cœurs avec la sagesse, la vie de Salomon, et qu'il nous transmette sa sagesse, sa crainte pour notre vie de tous les jours. Amen.